Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On va devoir rester à la maison pendant les 17 prochains jours, donc on essaye de profiter à fond de ces derniers instants pour sortir, prendre un dernier verre.
C'est fini, un pays à l'arrêt, plus rien ni personne ne bouge. Le pays de Galles est maintenant totalement reconfiné pour contenir la propagation du virus.
Une partie de l'Europe est au bord de la submersion. On fera dans ce journal un tour d'horizon de ces pays où le virus accélère de plus en plus.
Nouveau revers pour le professeur Didier Raoult, l'Agence nationale du médicament refuse d'autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine.
Le procès des attentats de Charlie Hebdo avec l'audition très attendue d'un témoin clé présenté comme le mentor des frères Kouachi. La présidentielle aux États-Unis. On retrouvera Xavier Yvon, bien évidemment, comme tous les soirs pour son carnet de campagne.
Et puis la route, à la veille d'un deuxième week-end de départ en vacances, nous ferons le point sur vos conditions de circulation.
Quant à vos conditions de météo, attention Anissa, il y a toujours ces orages en cours dans l'Est.
Oui, c'est une ligne orageuse en fait, qui touche actuellement toutes les régions qui se trouvent le long des frontières suisses. D'Avignon à Besançon, il pleut fort, des orages accompagnés de vent. Soyez donc très prudents, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils avaient l'autorisation de sortir jusqu'à 19h. Les Gallois sont depuis confinés chez eux, interdiction de sortir.
Et c'est une mesure bien sûr destinée à enrayer la propagation de l'épidémie. Le Pays de Galles est donc officiellement à l'arrêt pour les 17 prochains jours. À quelques exceptions près, tout le monde doit désormais rester chez soi. Évidemment, les habitants de Cardiff, la capitale, ont voulu profiter de ces derniers instants de liberté totale. C'est le cas de Cathy et de Charlotte qui se sont offerts tout à l'heure un dernier verre en terrasse.
On est toutes les deux des mères célibataires et on va devoir rester à la maison pendant les 17 prochains jours. Donc on essaye de profiter à fond de ces derniers instants pour sortir, prendre un dernier verre. Cette fois-ci, on a eu une semaine pour se préparer, faire nos courses, donc je pense que ça va être plus facile. Ce confinement, en tout cas, il est nécessaire parce que nous avons perdu le contrôle du virus et les chiffres sont de nouveau à la hausse. On espère en tout cas que ça va marcher si tout le monde reste à la maison. J'espère vraiment que les restrictions seront levées et qu'on pourra voir quand même un peu nos amis à Noël. On croise les doigts.
Voilà, deux Galloises confinées depuis ce soir. Elles répondaient à Anaïs Cordoba. Il y a la situation au pays de Galles, Isabelle, mais ailleurs en Europe, franchement, ce n'est guère mieux.
Oui, à tel point que l'Agence sanitaire européenne aujourd'hui parle de graves inquiétudes face à l'évolution de cette épidémie. La situation n'est plus très loin d'être dramatique même chez certains de nos voisins. Et pour autant Isabelle Horry, bien, on ne prend pas les mêmes mesures partout.
Et non, et pourtant, le constat est sans appel. Du Danemark à la Croatie, en passant par la République tchèque, la Suisse ou la Belgique, de nombreux pays sont en train de battre tristement leurs records nationaux de nombre de contaminations. Pour autant, le dosage de mesures n'est effectivement pas le même partout. Le Pays de Galles, mais aussi l'Irlande, depuis hier, ou encore plusieurs villes au Portugal, basculent dans le reconfinement. Mais en Irlande, par exemple, les écoles restent ouvertes. En République tchèque, pays le plus atteint d'Europe, elles sont au contraire fermées pour 3 semaines et les déplacements restreints. Un couvre-feu a été mis en place ou va l'être en Slovaquie, dans certaines régions espagnoles ou italiennes. Dans la région belge de Wallonie, il vient d'être avancé à 22h. Mais les autorités nationales ne parlent pas reconfinement, alors que des experts et les fédérations d'hôpitaux l'estiment inévitable en Belgique, deuxième pays le plus contaminé du continent. Enfin, la Suède reste fidèle à sa ligne originale. Malgré la remontée des cas, le masque n'y est toujours pas obligatoire. Stockholm vient même d'assouplir les restrictions pour les seniors et les personnes fragiles en invoquant le risque de dépression nerveuse.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct donc de Bruxelles. En France, le reconfinement total n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, mais l'exécutif n'écarte pas cette hypothèse, même si elle reste le dernier recours.
Et le président Emmanuel Macron l'a dit lors d'une visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise. Le chef de l'État fait confiance aux mesures actuelles pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. Le reconfinement local n'est pas tabou, mais il doit rester la dernière option.
On va évaluer chaque semaine l'efficacité des mesures prises. Et donc, au moins jusque début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement. Et ces mesures, de manière certaine, je peux vous le dire aujourd'hui, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. De deux manières, soit en s'étendant géographiquement, comme hier, soit en regardant aussi les lieux, les moments où, au fond, l'épidémie se propage le plus vite pour réduire à chaque fois ces occasions. Et on va essayer de le faire de la manière la plus ciblée. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux plus larges. On va essayer à chaque fois d'aller, en quelque sorte, réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup.
Emmanuel Macron, il y a quelques instants, à sa sortie d'une visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val d'Oise.
Europe 1, 19h04.
C'est l'un des témoins clés du procès de la tuerie de Charlie Hebdo. Peter Chérif est présenté comme le mentor des frères Kouachi.
Et son audition s'est déroulée par visioconférence, après des heures de négociations pour éviter d'avoir recours à la force, parce qu'au départ, Peter Chérif devait être entendu ce matin. Il l'a finalement été cet après-midi. Et Chloé Triomphe, ce vétéran du djihad, ami d'enfance des frères Kouachi, s'est muré dans le silence.
Oui, c'est un étrange rapport de force qui s'est joué tout à l'heure devant la cour d'assises après des négociations qui ont duré toute la journée pour obtenir que Peter Chérif accepte de venir déposer devant la cour via une visioconférence. L'ami d'enfance des frères Kouachi, impliqué comme eux dans un dossier de filière de combattants vers l'Irak, ce vétéran du djihad, possible commanditaire des attentats de janvier, a donc opposé jusqu'au bout son refus de répondre aux questions. Menotté, il a d'abord prononcé des bénédictions en arabe puis en français avant de se murer ostensiblement dans le silence, en lisant un petit livre que l'on peut supposer être un livre de prière ou un Coran. Le président de la cour a bien tenté de lui lire ses déclarations en garde à vue, en l'invitant à répondre, mais rien, pas un mot, n'est sorti de sa bouche, hormis ses paroles sur l'existence de Dieu. Et c'est donc sur ce constat d'échec que cette déposition a pris fin. Finalement, aujourd'hui, la seule confirmation que la cour a pu obtenir sur les commanditaires de ces attaques s'est résumée par la déposition ce matin de Sonia Mejri, ex-épouse d'un chef de l'État islamique, qui a confirmé qu'Amédi Coulibaly avait bien été recruté depuis la Syrie.
Chloé Triomphe en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 19h08 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. On va tout de suite partir aux États-Unis. J-11, cette fois avant la présidentielle. Et vous le savez, tous les soirs, Europe 1 se glisse dans les pas des deux candidats à la Maison-Blanche. C'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
Alors Xavier, on est au lendemain du dernier débat télévisé et c'est encore ça qui domine la campagne.
Oui, les médias américains sont encore en train de compter les points et aussi le nombre de mensonges de Donald Trump, toujours aussi phénoménal. Contrairement au premier débat, eh bien, il y a eu de la substance cette nuit puisqu'on a pu cette fois entendre les deux candidats développer leurs arguments. Sur la pandémie, ils ne sont pas surprenants. Pour Joe Biden, je cite, « un président responsable de tant de morts ne peut pas rester au pouvoir. Ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de la Chine », a répondu Donald Trump. Mais ils ont aussi pu parler d'autres sujets moins souvent évoqués, notamment l'environnement et le changement climatique. Et là, les Américains ont pu entendre la différence fondamentale entre les deux candidats.
Vous allez fermer l'industrie pétrolière ?
Oui, je vais faire la transition énergétique.
Oh, c'est une déclaration importante.
Oui, c'est une déclaration importante parce que l'industrie du pétrole pollue de manière significative. Il faut arriver avec le temps à la remplacer par de l'énergie renouvelable.
C'est peut-être la déclaration la plus importante en termes de business. Ce qu'il dit, c'est qu'il va détruire l'industrie pétrolière. Vous vous en souviendrez, Texas ?
Le Texas, on le rappelle, une réserve pétrolière de l'Amérique et un État où les républicains ne sont plus aussi sereins.
Effectivement, on le comprend. Xavier, l'actualité de la journée chez vous, c'est aussi la signature d'un accord historique entre Israël et le Soudan sous le parrainage de Donald Trump.
Et oui, et le président américain ne se prive pas de s'en servir comme un argument de campagne. Il était tout à l'heure au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le bureau ovale, devant les caméras pour s'auto-féliciter et écouter ce qu'il a demandé à son ami Bibi.
Do you think Sleepy Joe could have made this deal, baby? Sleepy Joe.
Tu crois que Joe l'endormi aurait pu obtenir cet accord, Bibi? Moi, je ne crois pas, a dit Donald Trump. Et on entend le Premier ministre israélien un peu gêné qui répond pas vraiment, probablement pour ne pas insulter l'avenir.
Effectivement. Et on termine, Xavier, avec le chiffre du jour.
Alors ça y est, on a franchi la barre des 50 millions. 50 millions d'Américains ont déjà voté, soit par correspondance, soit dans les bureaux de vote anticipés. C'est du jamais vu, ça fait déjà presque 40% du total des votes d'il y a 4 ans. Et ça veut dire que les deux candidats ont débattu hier devant une Amérique qui a en fait déjà en grande partie exprimé son choix.
Effectivement, c'est assez troublant. L'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, le journal de campagne, c'est tous les soirs à 19h. Des rebondissements, il y en aura sans doute encore beaucoup dans cette campagne américaine. Et des rebondissements, il pourrait y en avoir. en avoir aussi, Christophe, dans le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille.
Oui, alors, il faut rappeler un peu les épisodes précédents. On se souvient qu'un homme d'affaires tunisien, Mohamed Ajouri, s'était déclaré intéressé par la vente du club. Proposition rejetée par le propriétaire actuel de l'Olympique de Marseille, qui a même assigné l'acheteur potentiel en justice. Entre les deux, l'ancien boxeur Luis Acayes assure que le dossier de la vente de l'OM n'est pas clos.
Le projet, il n'est pas fini. Il est dans les tuyaux. Je sais très bien que Mourad discute avec M. Ajouri. Ils sont en contact, peut-être pas Mourad directement, mais M. Ajouri avec M. Malcourt. Pour l'instant, il faut laisser le temps au temps. Là, on est dans des jours assez noirs. Regardez bien, qu'est-ce que vous voulez acheter un club qu'on ne peut pas faire venir des supporters? On n'a pas les droits de télévision, il faut emprunter pour soulager les clubs. Non, il y a un problème en ce moment, il faut laisser passer le temps pour que tout s'arrange.
Voilà, Luis Acayes, que vous pourrez retrouver demain sur Europe 1 dans l'émission Face aux auditeurs de 20h à 21h avec Lionel Rousseau.
Et puis Christophe, il y en a qui partent en vacances dès ce soir. On jette un œil tout de suite sur vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
La veille d'un deuxième week-end de départ en vacances de la Toussaint, on se demande s'il y a du monde sur la route. Est-ce que c'est le cas, Laura Taouchanov?
Oui, il y a beaucoup de monde sur les routes ce soir. Entre Beaune et Lyon, Fourvière sur l'autoroute A6, vous mettez 2h25 au lieu d'1h15. C'est toujours très compliqué aussi entre Chalon-sur-Saône et Tournus. Et puis, sur l'autoroute du Soleil, prévoyez des ralentissements jusqu'à Aix-en-Provence. En Ile-de-France, la soirée est classée orange dans le sens des départs. Trafic très dense sur la N118 jusqu'à Orsay. Même chose sur l'autoroute A10 avant Palaiseau. Et puis attention, toujours aux pluies violentes, elles rallongent votre temps de parcours sur l'autoroute A64 au niveau de Tarbes. Même chose entre Lyon et Orange, avec en plus des rafales de vent.
Merci Laura Taouchanov.
Et c'était le journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Merci Christophe, on vous souhaite un bon week-end.
Merci Isabelle.